Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous sommes toujours ravis quand nous savons que nous sommes à votre contact à partir de 11h sur votre radio, la 93.5. Nous sommes au mardi 12 novembre 2024. Il sonne 11h sur votre radio. C'est l'émission Club de la Presse qui démarre. Bienvenue à ce deuxième numéro de l'émission pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas Etek aussi de TV assure la mise en onde, la mise en ligne est assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Lousso au micro. Merci fraternel à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Coctoisie à Dapaon. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre page Facebook et aussi notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous suivre aussi sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité du Togo, de l'Afrique et du monde entier. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi, déjà confrère, qui a répondu à notre invitation, puisque nous sommes au mardi. Eric Pakoudjo-Josson est là. Eric, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers collègues, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM.
J'espère que tu vas bien, Eric.
Tout va bien, merci.
Merci et merci d'avoir répondu à notre invitation. Autre confrère qui a répondu à notre invitation, c'est Jean-Baptiste Atissot. Jean-Baptiste, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent à travers le monde entier, et à travers les canaux digitaux et puis avec les nouvelles technologies qui sont aux manettes.
J'espère que vous allez bien.
Oh oui, par la grâce de Dieu, nous avons le souffle de vie aujourd'hui.
C'est l'essentiel.
Vraiment.
Quand on a le souffle de vie, on peut remercier le Seigneur pour cela.
C'est absolument.
D'accord. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes au mardi. Mardi, ça rime bien avec la chronique littéraire avec Tis Claude Assiobo. Claude, bonjour.
Bonjour.
J'espère que tu vas bien.
Ouais, je peux tenir.
Vous pouvez tenir, c'est l'essentiel. Vous avez le souffle de vie aussi. On dit merci à Dieu pour cela. Alors Claude, on sait qu'aujourd'hui pour notre chronique que nous appelons désormais bibliothèque animée, nous allons nous intéresser à chacune alors des œuvres togolaises sélectionnées selon les critères soit d'expressivité et d'originalité et aussi alors de la profondeur, l'esthétique de l'œuvre, alors guidera nos choix. Bien sûr, avant les thèmes développés, nous ferons avec les œuvres, les opérations d'analyse suivantes, le ou les regards de notre chroniqueur. Vous, bien sûr, Claude, vous allez poser votre regard sur les œuvres. Et nous aurons aussi une lecture radiophonique des extraits des œuvres et aussi une analyse transversale de plusieurs œuvres autour de la même thématique. Et un dialogue avec l'auteur de l'œuvre, si possible. Bien sûr, et tout ceci nous amènera à revenir d'une façon discontinue alors sur une œuvre plusieurs fois et selon alors plusieurs angles si possible. Et la charité ordonnée commence par soi-même.
Bien ordonnée, hein?
Bien ordonnée, bien sûr. Bien ordonnée commence par soi-même. Alors, nous allons inaugurer les choses à partir de vous, même Claude Assiobo, sauf la chronique, alors que vous ne pouvez alors pas vous permettre alors sur vous-même. Alors, nous allons nous intéresser à votre œuvre, surtout l'amour et le sang. Et l'amour et le sang, nous avons pris le goût de lire cette œuvre, un goût littéraire même d'ailleurs, et c'est une œuvre qui a été bien écrite. Et je sais que Eric aussi a pris ce plaisir de lire cet ouvrage. Alors, d'abord, pourquoi vous avez donné ce titre, l'amour et le sang, à cette œuvre?
Oui, je crois que ce n'est pas gratuit. J'ai voulu dessiner une relation d'équation, d'inéquation entre deux thèmes forts ou deux concepts forts, l'amour et le sang. Et l'amour est synonyme du sang lorsque les hommes se sacrifient les uns pour les autres. C'est ça. Hein? Et l'amour devient l'antonomie, le contraire du sang, lorsque on veut sacrifier les autres. Vous voyez ça? Et c'est le schéma du monde aujourd'hui. Entre les deux, dites-moi ce qui prévaut, ce qui règne. Est-ce que nous nous sacrifions pour les autres ou est-ce que nous sacrifions les autres? Alors,
c'est une question qui se pose.
Oui, bien sûr. Vous devez remarquer que le monde va mal, très mal. Et très mal, très mal. Et c'est ça. Nous avons le choix. Hein, faut pas y mêler Dieu. Bon, je ne veux pas faire toute la litanie. On peut revenir là-dessus un jour. Donc, c'est ça mon constat. Et vous allez voir que je suis très pessimiste. Et c'est ça ma nature. Et mais à la fin, je suis très optimiste pour l'humanité. Dieu ne nous laissera pas détruire sa création. Ça, j'en suis sûr. Et je crois profondément en Dieu. Mais je ne crois pas au diable, comme je vous l'ai dit, dans l'œuvre.
Dans l'œuvre, justement, je l'ai lu.
Et le diable, c'est l'homme. Et nous préférons sacrifier les autres au lieu de nous sacrifier pour les autres.
Vous avez la réponse à votre question.
Voilà.
D'accord.
Alors, oui, mais, moi, je prends déjà le titre.
Oui.
Quand Claude me dit l'amour et le sang, je lui posais la question la dernière fois de savoir pourquoi il n'a pas plutôt dit l'amour dans le sang. Parce que quand tu lis l'œuvre à la fin, comme il dit, il est pessimiste, il est optimiste plutôt, excusez-moi.
Justement, là,
parce qu'au début, il a fait une présentation de l'humanité qui n'en est pas une. Et à la fin, il dit que si, il dit, il n'y a pas de fin du monde. Hein? Il écrit hein, qu'il n'y a pas la fin du monde. Que la fin du monde, c'est quand l'homme va se rendre compte qu'il vit une certaine animalité et qu'il veut aller vers l'humanité.
Oui, ça c'est vrai. Oui, tu as bien compris. Oui.
Et donc, pour moi, l'amour dans le sang me convient plus que l'amour et le sang.
D'accord, c'est votre appréciation
mais
de la
c'est,
chose.
C'est une façon de voir les choses, mais je risque d'être partiel en voir la chose comme ça, puisque c'est deux relations que j'ai voulu établir. À la fois une relation d'antonomie, de contraire, et une relation d'harmonie. Comme vous l'avez dit, je suis pessimiste pour le monde aujourd'hui, mais demain, je crois que l'homme va comprendre qu'il n'a pas le choix. Il ne peut aller qu'à l'humanité. Nous ne sommes pas encore dans l'humanité. Nous allons vers l'humanité. Aujourd'hui, l'homme est plus proche de l'animal que de l'ange. C'est ça que nous ne comprenons pas. L'homme va vers l'humanité et s'efforce d'aller vers l'humanité. Et si vous remarquez, le monde va très mal, mais sur le plan général, vous devez remarquer qu'il y a des choses qui bougent. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un se permet une animalité quelque part, les médias répercutent très fort. Les gens sont indignés par le monde. On ne peut plus se cacher.
Tout à fait.
Et lorsqu'on ne peut plus se cacher, on est livré, n'est-ce pas, au regard des autres. Le regard des autres, ce n'est pas seulement l'enfer. Ça vous pousse à redevenir homme. Voilà.
Alors, Claude, le constat que j'ai fait, c'est que vous avez écrit ce essai sous forme alors de lettres ou d'un courrier que vous adressez à votre ancien élève Dométor. Et c'est à lui que vous adressez même d'ailleurs le message. Alors, je lis même d'ailleurs à la page de couverture un essai épistolaire. Alors, est-ce que c'est ce genre qui est essai épistolaire ou...
Bien sûr. Comment?
Oui, c'est simple. C'est un essai, c'est une réflexion directe.
Tout à fait.
Une argumentation. Mais j'ai réfléchi avant d'en arriver là. Nous sommes en littérature, c'est sous forme de lettres. Montesquieu l'a fait.
Tout à fait.
Baudelaire.
Oui, l'a fait. Otogo et Denkojo l'a fait après moi. Il y a mon ami Anasatakura. Oui, moi ici, c'est un ensemble de lettres qui forment une réponse, une seule réponse, mais à plusieurs étapes, aux lettres qu'un ancien élève, bouleversé par tout ce qui se passe dans le monde, adresse à son ancien maître. Et il prend la peine de lui expliquer. Bon, c'est le prétexte pour moi d'exposer ma vision du monde.
Claude, je continue pas à croire. Oui. En disant l'amour dans le sang, vous, en écrivant cette lettre à votre ancien élève, qui est en fait le fils à votre amante, votre femme, vous vous trouviez en Europe.
Oui.
L'enfant...
C'est pas moi, c'est celui qui est...
L'enfant se trouve en Afrique.
Oui.
Alors, vous exposez une réalité en disant que ce que vous voyez là-bas, vous êtes allé très loin. Je dis, c'est au-delà d'un essai littéraire, c'est une œuvre philosophique. Hein,
c'est une œuvre philosophique, oui.
Parce que vous êtes allé très loin en parlant de quoi ? De l'argent.
Oui.
Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus matérialistes, oui, dites-vous, dans votre œuvre,
oui,
qu'humains.
Oui.
On ne cherche plus cet amour-là. Mais je dis, le sang dont vous parlez, c'est tout ce qui se passe autour de nous. Et nous tous, nous sommes d'accord que le monde va très mal.
Oui.
Et donc, je dis, l'amour dans le sang,
oui,
me conviendrait mieux pour aller dans le sens où vous nous guidez à travers votre œuvre.
Non, je vous comprends. Je suis heureux. C'est que il faut, lorsque vous avez écrit une œuvre, l'œuvre vous échappe. Il faut laisser les lecteurs faire leurs interprétations.
Bien sûr.
Et tu n'auras pas tort lorsque, devant les élèves, si tu étais un professeur, de leur proposer ce regard. Et ça nourrit la réflexion. Et l'auteur est très heureux lorsqu'on lui fait découvrir d'autres aspects de son œuvre. Hein, je peux vous raconter des histoires. Hein, Claudel, qu'on invite à résister à sa propre œuvre, ouais, et à l'explication de sa propre œuvre. Mais à la fin, il dit, mais
Voilà. Quand je prends un passage au pif, hein, et je suis à la page 14.
Est-ce que nous aurons le temps?
Oui, mais justement, non, c'est pour expliquer rapidement.
On n'aura pas le temps,
ça c'est clair. On n'aura pas le temps. Mais je prends au pif, hein, ce passage 98, la page 98. Vous écrivez, le vrai problème, c'est que dans cette bouteille cassable qu'est notre vie, nous tenons pour la plupart à faire notre plein de bonheur. Alors, et vous dites à la suite, il nous suffit d'accepter qu'elle soit à moitié pleine, l'autre moitié vide que nous laissons pour les autres.
Naturellement. Oui, c'est ça le monde. Les gens, je vais tout résumer, les gens n'ont pas compris que l'argent est essentiel, mais n'est pas l'essentiel. Dès qu'on va comprendre ça. Moi, je vois des gens, je ne comprends pas. On a eu demi-siècle à vivre. Hein, tout ce que vous avez. Et ça, tout le monde le dit. Hein. Mais ils le disent pour les autres. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, la plus belle voiture de l'OV, c'est ma petite voiture. Vous pouvez voler en hélicoptère. Ça ne manque rien. Il faut avoir un peu d'argent pour vivre. Sans ça, la vie n'a pas de sens. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est dans notre cœur. Et vous pouvez ouvrir vos fenêtres et entendre regarder la pluie dans les arbres et être heureux. Hein? Le vital, oui, ça suffit. On n'a pas besoin de construire des châteaux. C'est parce qu'on veut construire des châteaux. On veut être milliardaire. On veut avoir plusieurs voitures. On veut avoir des maîtresses. Et des choses superflues qui nous surchargent. Que nous sommes malheureux sur la terre. On n'a pas besoin de tout ça. C'est ça. Moi, j'ai toujours envie de dire aux gens, l'argent est essentiel, mais n'est pas l'essentiel.
D'accord. Mais en même temps, il faut que le monde se développe.
Oui, bien sûr.
C'est parce que c'est parce que nous pensons que nous devrions avoir des choses, qui brillent, comme tu l'as dit, et des choses qui brillent, et que nous pensons que nous devons nous développer.
Oui, là, vous parlez de la société de consommation, du capitalisme, que je cible ici. Il y a le bon capitalisme. Oui. Le bon capitalisme. Lorsque vous voulez être riche, travaillez.
Bien sûr.
À l'école, cherchez à être excellent.
Bien sûr.
Si vous êtes excellent, vous allez vous imposer. Chercher à être riche, ce n'est pas un péché. Hein? Mais il faut l'avoir dans le tété. Hein? Mais lorsque vous avez les chemins obliques pour faire pleurer, l'Afrique brille sur ce plan-là. Mm. Hein? Vous détournez tout l'argent de l'État et les gens sont dans la souffrance et vous dites que vous êtes riche. Et c'est pourquoi les Blancs compris, la loi, la force reste à la loi. Si tu veux être riche, tu travailles. Si tu veux être grand dans la société demain, tu dois chercher à être excellent en classe. Et dans cette société-là, ceux qui conduisent, ceux qui sont devant, c'est les excellents. Et il n'y a rien à faire. Si tu es passable, tu resteras à ta place passable. C'est tout.
D'accord.
Mais c'est lorsque les médiocres qui sont devant, alors vous renversez l'attelage.
Et imposent leur loi.
Justement, nous allons finir rapidement cette partie. Oui, mais Jean-Baptiste, vous avez quelque chose à dire.
Pour apprécier notre camarade pour son œuvre, parce que à l'entame tout à l'heure, il a parlé de relations d'équation et d'inéquation entre le sang et l'amour. J'ai aimé cette figure. Et au-delà de ça, il a posé une question qui me tient beaucoup à cœur. Il a dit, est-ce que nous nous sacrifions
pour les autres,
ou bien
nous sacrifions les autres.
Les autres. À cette interrogation vaut vraiment la peine dans le monde où nous sommes aujourd'hui.
Mais je suis heureux de ce que Claude Bema a répondu déjà à cette question.
Oui, c'est ça. Mais ça vaut, je sais qu'il a répondu, mais il faudrait que cette question, on se la repose, et surtout à nos acteurs de la vie politique, parce que on a l'impression qu'aujourd'hui, chacun se dit, nous travaillons, nous gouvernons pour le bien des populations, mais au vécu quotidien, on a l'impression générale que les gouvernants sont là pour sacrifier les populations.
Ça, c'est l'Afrique.
Claude, je lis à la quatrième de couverture, puisque c'est, nous sommes pratiquement à la fin. Je lis à la quatrième de couverture que vous avez reçu le prix littéraire CAEC. C'est quel genre de prix?
Non, c'est une aventure. Tu sais, mon premier roman, mon premier livre, je l'ai écrit en 89. Et les néants ont voulu publier, mais ils ont trouvé le livre bon et ils m'ont demandé de passer un concours au Sénégal. J'ai pris le premier prix du roman et à l'époque, en même temps, le mur de Berlin est tombé. Ouais. Et est tombé même sur le livre. Le livre a vieilli parce que le thème phare à l'époque, c'est le parti unique. Et alors, donc, le livre n'a plus tellement... Ça a duré, ça va vite publier. Et finalement... Et c'est ça qui a changé même ma manière d'écrire. Vous devez remarquer que j'aime beaucoup les symboles.
Ouais.
Et il faut écrire maintenant de façon que le livre s'inscrive aussi dans la durée. Il ne faut pas trop s'accrocher. Et il faut aborder une écriture qui a une épaisseur qui permet au livre d'avoir encore un sens, une autre interprétation demain. Il faut, bien sûr, les critiques sont là pour ça. Mais l'auteur aussi peut penser à ça.
Hein.
Voilà, à peu près. C'est un prix créé par Aminata Sofal.
C'est au Sénégal.
Sénégal. Et c'est le centre d'échange, centre d'animation et d'échange culturel.
D'accord.
Ça m'a permis d'aller connaître le Sénégal pour la première fois, tout ça, etc. Au moins.
Oui, merci d'être passé dans cette émission nous allons boucler cette partie. Hein.
C'est à moi de vous
remercier. On va revenir
sur cet essai épistolaire.
Sur d'autres aspects, bien sûr.
Quand Claude appelle l'argent le grand vaudou.
Voilà. Vous avez vraiment pris le temps nécessaire de nous. Alors, pour clôturer, je vous donne cette citation de l'œuvre L'amour et le sang. Et Claude, vous écrivez: l'homme est né en Afrique, mais grâce à la science, il a grandi en Europe, où il risque de laisser son âme à cause de la science.
Voilà,
je relis: l'homme est né en Afrique, mais grâce à la science, il a grandi en Europe où il risque de laisser son âme à cause de la science. Voilà. Je pense quand même que c'est une citation qui doit nous donner alors des réflexions, nous, surtout en tant qu'Africains. Merci beaucoup, Claude, d'être passé dans cette émission. C'est, ça a été un plaisir.
C'est à moi de vous remercier.
D'accord. À la prochaine. À la prochaine. Sans transition, alors nous abordons notre premier sujet hein, pour le compte de cette émission. Alors, premier sujet, c'est par rapport à cette sortie de la police nationale. Je lisais tout récemment, enfin aujourd'hui même d'ailleurs, je lisais cette sortie alors de la police nationale sur un fait quand même qui s'est produit au niveau de Yaïra Kome. Yaïra Kome, c'est à Tiégou dans le golfe de... Et la police a mis la main hein, le 4 novembre 2024 sur 5 malfaiteurs impliqués dans un acte de barbarie ayant entraîné la mort d'un jeune concitoyen à Lomé. Et il s'agit alors d'un nommé T. Fadil, 18 ans, apprenti soudeur, et S. Abdoul Mossouil, 20 ans, apprenti mécanicien, T. Agbé, 24 ans, apprenti peintre auto, A. Yao Pierre, alias chinois, 32 ans, cuisinier, et A. Kodjovi, 34 ans, menuisier. Alors, les faits, le 2 novembre 2024, le commissariat de police de Hidranawi a reçu un appel anonyme signalant la présence d'un corps sans vie au quartier d'Atiégou Yaïra Kome. Des constatations, il est ressorti clairement qu'il s'agissait d'un lynchage perpétré sur un individu qui sera identifié plus tard comme T. Roger, 25 ans, et maçon de son vivant. Et l'enquête immédiatement ouverte par le dit commissariat a permis, 2 jours plus tard, de préciser les circonstances de ce crime et d'interpeller les individus impliqués grâce à l'interception d'une vidéo amateur tournée la nuit du crime par le nommé A. Yao Pierre, alias chinois. La police a pu reconstituer les faits. En effet, dans la nuit alors du 1er au 2 novembre 2024, Feu T. Roger aurait été surpris en flagrant délit de vol d'un casque de moto dans un garage situé à Tiégou Yaïra Kome, près de la scène alors de crime. Appréhendé par les occupants des lieux dont les nommés T. Fadil, S. Abdoul Massouil, T. Agbé et d'autres encore en fuite, la victime a été ligotée contre un camion et a subi d'atroces sévices corporels avant de se voir totalement aspergée du gasoil. Cette scène macabre s'est pourtant déroulée sous le regard passif des nommés A. Yao Pierre, alias chinois, et A. Kodjovi, qui ont préféré la filmer plutôt que d'intervenir ou d'appeler au secours. Alors, quand moi j'apprenais même d'ailleurs cette histoire ou ce fait ce matin, Eric, sincèrement, ça m'a donné un peu d'indignation parce que quand on prend un fait comme le vol alors de casque, on a lynché quelqu'un pour cela. C'est vrai que nous n'encourageons pas le vol, mais lyncher quelqu'un jusqu'à le tuer même d'ailleurs pour un cas de vol de casque, est-ce que ce n'est pas grave?
Extrêmement grave. Extrêmement grave. Je ne peux pas comprendre ce qui peut amener d'ailleurs des gens à la vindicte populaire. Nous le disons toujours, quel que soit le forfait commis par un individu, la meilleure des choses, lorsque vous l'attrapez, c'est directement dans un poste de police ou de gendarmerie pour que les autorités compétentes puissent s'en occuper. C'est vrai que parfois, il y a des récidivistes qu'on retrouve dans le quartier en train de commettre des vols. On les arrête, on les amène à la police, on les envoie en prison. 2 jours après, ils reviennent dans le quartier pour continuer par sévir. C'est vrai que c'est des situations que les populations n'acceptent pas, mais il faut comprendre une chose. Parfois, les gens peuvent crier au voleur, crier à l'assassin, mais vous n'êtes pas le corps de police pour mener des enquêtes et juger de la portée du forfait commis. Et donc, je crois que lyncher un individu à mort est une faute extrêmement grave. Et c'est punissable par la loi. Quand vous tuez quelqu'un, qu'est-ce que vous faites de son corps? C'est quelqu'un qui appartient à une famille. Attention, des gens font plus que ça, mais qu'est-ce qu'on leur fait? On les envoie tout simplement dans les commissariats ou les gendarmeries les plus proches pour pouvoir juger de leur cas. Je pense que ceci doit faire réfléchir beaucoup nos jeunes frères qui disent « Non, il a volé, il faut le tuer, il a fait ci. » Non, on ne tue pas. La vindicte populaire n'est pas une bonne chose. Il faut qu'on essaie de l'éradiquer dans notre société.
Mmh. Alors Jean-Baptiste, nous n'avons pas besoin de nous faire même nous-mêmes la justice.
Oui, justement, je crois que les tests sont clairs. Lui n'a le droit de se faire justice. Et c'est pourquoi il y a les institutions compétentes qui sont là. Et en cas de besoin, on doit en avoir recours. Mon grand frère a parlé de commissariat, de gendarmerie, et qui sont les endroits les plus indiqués quand on arrête un voleur. Ce sont les deux endroits qui sont indiqués. Et après cela, s'il y a une procédure à engager, on engage la procédure. Et si ça doit aller jusqu'à la justice, ça va à la justice et c'est à la justice de trancher si finalement l'incriminé doit aller en prison et purger une peine s'il le faut. Mais peut-être ce qui s'est passé, on ne tient pas témoin, mais à avoir
la reconstitution des faits.
Reconstitution des faits par la police, bon, peut-être on estime que peut-être ceux qui les présumés auteurs, on ne sait pas s'il y a l'un qui est le propriétaire de ce casque en question, et c'est peut-être pour se venger de l'acte qu'ils ont eu à tabasser puis à
asperger. Mais si on est propriétaire, est-ce qu'on peut aller jusque-là?
Non, je ne dis pas qu'il faut aller jusque-là, mais c'est on ne sait pas si la personne a eu des antécédents ou plusieurs fois a été victime d'actes de vol, donc ça fait qu'il est aigri, il a des ressentiments contre le vol, et c'est pourquoi peut-être ce petit... Bon, on ne peut pas dire c'est un vol. La situation qui est arrivée, si c'est plusieurs fois que cela lui arrive, ça peut quand même susciter sa colère à un degré qu'il peut vouloir tabasser le gars en question. Mais jusqu'à l'asperger de gasoil pour qu'il en succombe, je crois que c'est un peu exagéré. C'est exagéré, donc on ne va pas polémiquer trop là-dessus. Bon, ils sont sûrement dans les mailles de la police.
Tout à fait, ils sont représentés au procureur général.
C'est ça, ils vont subir la rigueur de la loi.
D'accord.
Donc c'est le lieu quand même d'appeler la population à quand même faire preuve de réserve. Donc s'il y a des cas de vol, bon, il est vrai, c'est un acte répréhensible. Mais peut-être tabasser, ceci n'est pas aussi bon, mais vous tabassez puis vous amenez à la police et à la gendarmerie.
D'accord, nous sommes rejoints par Isidore Color. Isidore, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour confrère. J'étais là depuis, mais je pense que c'est maintenant que le club de la presse a commencé.
Oui, vous étiez là depuis, mais vous n'étiez pas rentré.
Évidemment, je ne voulais pas m'inviter dans un débat qui ne me concerne pas.
Non, mais c'est parce que vous étiez en retard. Ça, il faut le dire. Parce que vous étiez en retard.
Je ne veux pas m'inviter dans un débat qui ne me concerne pas.
C'est parce que vous étiez en retard.
Vous êtes toujours dans une rubrique qui ne me concerne pas.
On va aller s'assurer. Ok, ce qui est sûr, nous sommes en train de parler de cette vindicte populaire qui a eu lieu à Yaracome. Nous sommes dans le Golfe 2. Et ce qui était encore étonnant dans cette reconstitution des faits que la police nous a adressé, c'est que il y a des gens quand même qui ont suivi la scène et ils n'ont pris que le plaisir de filmer et jusqu'à ce que le concerné ne soit décédé.
Mais c'est symptomatique de l'aigreur que la population ressente face à certaines choses. Si vous fouillez un peu, peut-être ce quartier est ciblé. Et tantôt, je le disais, peut-être que l'individu est un récidiviste. et qu'on connaît très bien. Après, vient Bombo, le torse en disant que vous avez tout fait là, je suis encore revenu, et vous narguez. Je ne fais pas l'apologie de, comment dirais-je, de la vindicte populaire qui même est allée au crime, qui est devenu, c'est un crime, ils seront punis par la loi. Mais au-delà, c'est le lieu d'interpeller nos autorités pour qu'elles puissent sévir en cas d'arrestation de ces filous ou de ces braqueurs, de sorte qu'ils ne reviennent plus, ou s'ils reviennent, qu'ils reviennent avec de beaucoup de meilleurs sentiments, au lieu de narguer et de continuer. Personne n'aura plaisir à voir quelqu'un souffrir comme ça, hein, jusqu'au supplice. Mais peut-être, c'est dans leur subconscient qu'il faut aller témoigner si elles ont été victimes à plusieurs reprises de ces vols, de ces braquages dans ce quartier. Mais solidairement, on va condamner cet acte.
Justement, on va condamner cet acte. C'est un acte condamnable. Et il est très important, tel que Eric l'a dit tout de suite, nous n'avons pas besoin quand même de nous faire nous-mêmes justice. Et c'est des actes vraiment à condamner. Nous quittons ce sujet. On s'intéresse à un autre sujet. Eric, c'est vous qui nous donnez ce sujet à la une alors de votre journal L'Union pour la Patrie. Vous écrivez « Établissement privé d'enseignement supérieur, obtention d'agrément, accréditation des parcours et homologation des certificats ». Qu'est-ce qui se passe encore là dans l'enseignement supérieur ?
Alors, je crois que c'est un problème que nous connaissons tous, puisque nous avons eu à travailler dessus depuis des années. En réalité, lorsqu'il y a la rentrée académique ou la rentrée universitaire, vous voyez beaucoup de publicité, des écoles qui annoncent des prouesses et qui essaient d'appâter les parents et les étudiants. Et en réalité, quand vous regardez bien, tout ça, c'est des leurres justes pour faire entrer des étudiants dans des universités privées qui n'ont pas d'agrément ou ne peuvent même pas dispenser des cours. Alors, chaque année, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche essaie toujours de sortir dans Togo Presse, hein, dans la presse officielle,
le quotidien officiel
Togo Presse, la liste des écoles accréditées, c'est-à-dire des universités privées accréditées, pour que chaque parent qui veut envoyer son enfant dans une université sache quelle université et quelle filière quand l'enfant choisit d'aller faire une certaine filière qu'on l'envoie dans une université qui est accréditée par l'État togolais. Et donc, le ministère a encore essayé, là, cette fois-ci, sur son site internet, de donner les procédures pour l'accréditation et les procédures également pour l'homologation des diplômes qu'on n'octroie dans ces universités privées. Puisque aucune université privée ne peut donner de diplôme au Togo, il faut que ces universités-là comprennent. Même si vous êtes accrédité, vous n'allez donner que des attestations qui, après, seront étudiées par une commission mise en place au niveau de l'État pour homologuer les différents certificats que vous octroyez à vos étudiants. Et donc, il y a toute la procédure. On dit déjà, quand une école est accréditée, la première accréditation, c'est sur 3 ans. Et après, la deuxième, c'est 5 ans, renouvelable. Et donc, lorsque vous avez une première accréditation de 3 ans, on doit encore étudier votre dossier parce que vous devrez déposer un dossier au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche écrire au ministre pour l'accréditation de votre université privée. Et donc, après 3 ans, vous devez reprendre la procédure et là, si on veut vous accréditer, on vous donne 5 ans. Et après 5 ans, il faut le faire. Maintenant, si vous le faites 3 ans, après, vous ne recommencez pas, ça veut dire que vous n'avez plus d'accréditation. Et là, il faut que les parents et les étudiants fassent ce travail-là pour savoir si effectivement ces écoles, ces universités privées-là sont accréditées avant d'y aller. Et donc, c'est une procédure avec les pièces à fournir. Et il faut, par exemple, donner la liste des professeurs qui vont enseigner dans votre université. Il faut expliquer un peu le cadre de vie des étudiants. Est-ce que ça respecte les normes mises en place par l'autorité, etc. C'est des choses qu'on étudie avant de donner l'accréditation.
D'accord.
Maintenant, à la fin du cursus, vous donnez des certificats qui doivent être homologués par la commission mise en place. Et donc, je crois que c'est toutes ces procédures-là que le ministère a essayé d'expliquer sur son site internet et par voie de, je crois, Facebook et autres réseaux sociaux.
D'accord. Oui, Isidore, je sais que au temps de Majesté, professeur Majesté Iouatiba, il y avait ces réformes qui ont été faites pour que les universités, et surtout les universités privées, soient dans les rangs de l'homologation ou encore qu'ils aient, en quelque sorte, qui soient conformes, hein, conformes même d'ailleurs à ce qui est le standard. C'est vrai, Eric le disait tout de suite, que les parents doivent faire un travail, et ce travail-là, c'est de savoir, avant d'envoyer leurs enfants dans une université, c'est de savoir si cette université a vraiment les accréditations nécessaires.
Et bien sûr, mais avant cela, il faut interpeller et la direction de l'enseignement supérieur pour qu'elle fasse le ménage. C'est lieu d'interpeller M. John Doe, qu'il prenne le bâton de pèlerin pour faire le ménage. C'est à lui de le faire. Son prédécesseur, Assimak Bacha, l'avait essayé et ça lui a coûté valeur ce que ça lui avait valu. Mais il ne faut pas se retirer de ce boulot. Il y a plein d'universités privées qui doivent être fermées pour non-conformité. Je sais de quoi je parle. Et Assimak Bacha m'avait accordé une interview il y a de cela un an, et que j'ai publié en série. Et beaucoup de choses ont été révélées. Mais les corruptions des gens pour pouvoir avoir l'accréditation, toutes ces choses-là, si vous franchissez un peu, c'est ça. Et allez voir. Qui sont les présidents du conseil d'administration de ces universités? Mais c'est des gens du système. C'est des gens qui sont bien installés. Et vous ne pouvez rien leur faire. Monsieur John Doe doit prendre son bâton de pèlerin pour faire le ménage. Ça, c'est une parenthèse. Bon, maintenant, venons-en. Il y a deux types d'accréditation et d'homologation. Si vous voulez poursuivre vos études à l'Université de Lomé, il y a une accréditation que l'Université de Lomé délivre. Au-delà de ça, il y a d'autres accréditations que le ministère même délivre aux gens qui ne veulent pas continuer les études, mais homologation, je parle plutôt d'homologation des diplômes. Au-delà de l'accréditation, il faut revoir les partenariats que ces universités signent avec les universités étrangères, surtout du Canada, France, et ainsi de suite, qui délivrent des diplômes. Mais ces diplômes, pour entrer dans la fonction publique, doivent être homologués. Pas par l'université, mais par l'autre structure dont je parle. La commission d'homologation.
D'homologation.
Oui, qui se trouve au niveau de l'ancien, enfin, le tout premier de dossier. Et en face de l'hôtel 2 février.
2 février.
Donc, maintenant, il y avait un débat au niveau des réformes. C'est le débat, mais ça concerne les curricula, l'harmonisation des curricula. Parce qu'il y a plein d'universités qui font pratiquement la même chose, mais n'ont pas les mêmes yeux. Et délivrent pratiquement les mêmes diplômes. Et c'est après qu'on constate que, il y a un manquement. Il faut renforcer la capacité de l'étudiant qui a déjà eu son diplôme, et sa licence, et sa maîtrise et son master. Voilà autant de choses que l'enseignement supérieur doit revoir pour remettre les traits sur les rails. Sinon, on est en train de former des étudiants tarés, excusez-moi le terme, des étudiants tarés qui ne maîtrisent rien, mais ont leur diplôme. C'est quand on les recrute qu'on voit que, mais il y a beaucoup de tares. Quand je parle de tarés, c'est ça. S'il y a des tares, tu es taré, c'est pas dire que tu n'es pas intelligent. Mais c'est que on ne t'a pas permis de suivre le cursus normal. C'est pourquoi il faut revenir sur l'harmonisation des curricula, de sorte que toutes les universités puissent donner des enseignements ou le savoir au même degré d'accord. que les autres.
D'accord.
Et il y avait au rang des réformes, ils ont institutionnalisé, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, souvent au Togo, il n'y a pas de suivi, on a dit qu'il y aura un diplôme national pour les années de licence et de master. Où en sommes-nous?
Mais même dans l'Umoa, je pense quand même qu'il y avait quelque chose également comme ça. Oui, Eric.
La loi est claire. Aucune université privée ne délivre de diplôme. C'est un certificat de réussite pour tous les étudiants qui finissent leur... Que tu finisses ou pas, tu fais la licence ou tu vas en master 1, master 2, doctorat. Il faut... C'est juste un certificat de réussite que les universités privées ont droit de donner.
L'intitulé n'est pas comme ça.
Si, c'est ce que M. Diondo a expliqué. Bon, et je crois que c'est à partir de là que vous commencez votre processus d'homologation de votre diplôme, de vos grades et autres.
Ceux qui sont en partenariat avec des universités et à l'étranger.
Lorsque vous venez, il y a un concours et on demande un diplôme. Lorsque votre diplôme n'est pas homologué au Togo, vous ne pouvez pas participer à ce concours.
Oui, c'est ce que j'ai dit.
C'est clair.
D'accord. Alors oui,
on voit ce partenariat aussi.
Jean-Baptiste, c'est vrai que nous disons que les parents doivent être regardants par rapport à l'université dans laquelle ils doivent envoyer leurs enfants. Mais est-ce que au-delà de tout, ce n'est pas l'état de faire le ménage, tel que Isidore l'a dit, qu'on ait maintenant des bonnes universités, des universités qui sont accréditées?
Bon, je crois que la responsabilité première incombe vraiment à l'État, notamment au ministère de l'Enseignement supérieur, parce que ça va de la crédibilité de notre État. Parce que quand nous avons des universités privées qui, après formation de leurs étudiants, les étudiants qui pourraient toutefois se retrouver à l'étranger et qu'on dise qu'ils n'ont pas la qualité, n'ont pas la compétence nécessaire, ça décrédibilise notre pays, après tout. Donc, il revient donc à l'État de prendre ses dispositions. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est clair, déjà, à l'approche de rentrée académique, je crois déjà en fin septembre, au plus tard, je crois que normalement le ministère de l'enseignement supérieur doit quand même publier une liste officielle des universités privées qui ont renouvelé ou bien qui sont à jour. Ça doit se faire déjà disons fin août, puisque les gens
ça se fait surtout sur le site.
Et au-delà de ça, une responsabilité incombe aux promoteurs de ces universités privées. Vous ne pouvez pas quand même avoir des étudiants à former sans que votre structure ne soit agréée ou bien l'agrément n'est pas renouvelé. Ça, vous-même, votre personnalité en dépend. Si vous voulez vraiment donner du crédit à votre université pour que ça ne soit pas quand même mal vu par la communauté étudiantine, je crois que ça, c'est des
dispositions que vous devez prendre en amont, que même aucun étudiant ne saura que ah, votre accréditation est arrivée à terme, ça doit être renouvelé. Vous devez prendre les dispositions rapidement en amont si le délai approche, comme il a dit, 3 ans et puis 5 ans comme fréquence. Je crois que ça devrait être fait rapidement pour que même le... Comment l'appelle-t-on ? Avant que les autorités étatiques ne vous approchent pour voir si réellement c'est fait ou ce n'est pas fait. Non, vous devez prendre des dispositions et le faire à temps pour que ça n'écorche pas votre, la renommée de la structure que vous dirigez.
D'accord. Je
ça,
voulais juste pas... ajouter quelque
oui,
chose. J'ai pris ça comme une gifle. Hein, et quand le Nigeria nous écratignait que les diplômes délivrés au Togo sont de faux diplômes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça.
Oui, on se souvient.
Mais alors que avant nos diplômes sont prisés. Partout. Ce sont ces trucs-là qu'il faut, il faut faire le ménage.
Je pense c'est que ça a été important. Corrigé après.
Ça a été corrigé après.
Oui, le Nigeria a corrigé oui, ça. Oui. Après.
Bon, peut-être par des biens diplomatiques, mais ça nous a entaché jusqu'à présent.
Oui. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, quand on parlait d'homologation des diplômes, il y a des universités à l'extérieur dont les diplômes sont reconnus par l'État togolais.
Oui, oui.
Mais celles dont les diplômes ne sont pas reconnus, quand vous y allez, vous avez vos diplômes, vous rentrez au pays, vous devez faire homologuer votre diplôme.
Il y a une université privée, et je dis religieuse, UKAO, dont le diplôme est reconnu au Togo.
Tout à fait. Alors, nous allons quitter l'enseignement supérieur. On va s'intéresser à l'agriculture. Eric, parlons de l'agriculture. Vous écrivez qu'il y a un recul dans le secteur alors de l'agriculture. Vous écrivez ceci, recul du secteur agricole dans la valeur ajoutée du PIB de 32,8% en 2001-2010 à 25,2% en 2021-2024 en moyenne.
Oui, Pascal. Aujourd'hui, tout le monde crie à la faim. Tous les Togolais disent nous avons faim. Pourquoi ? Parce que certains n'arrivent pas à faire deux repas par jour, d'autres même l'unique repas, c'est difficile. Alors que nous tous, nous constatons qu'il y a beaucoup de milliards qui sont engloutis par l'agriculture. Il y a tellement de projets. On a eu des projets comme PPAO Togo, PASA, PARTAM, PNIASA, PNIASA, PADAT, BBVM. Autant de projets avec plusieurs milliards. Entre 2010 et 2024, avec tous ces projets-là, la richesse, puisque nous parlons de PIB, la richesse que l'agriculture devait porter à l'économie nationale ne devait pas être en baisse, mais plutôt en hausse. Malheureusement, ce qu'on constate, même si il y a des discours officiels qui disent qu'on est...
un excédent, etc.
Mais il y a des rapports qui sortent aujourd'hui pour dire qu'en réalité, notre agriculture ne nous produit plus la même richesse dans notre économie nationale. La preuve, il y a la revue à mi-parcours de la mise en œuvre du document stratégique pays de la BADS, la Banque africaine de développement, qui est sorti en juin dernier et qui révèle, c'est ce document qui révèle que entre 2001 et 2010, le PIB de l'agriculture était de 32,8%. Maintenant, entre 2021 et 2024, il est descendu à 25,2%. Comment peut-on s'expliquer cela? Aujourd'hui, il y a tellement de mécanismes
mise en place par le gouvernement, même il y a eu une politique agricole, et tout ça, le chef de l'État lui-même sort pour aller dans les ZAP, pour regarder ce qui se passe. On a mis en place une structure qui s'appelle FOPATS, où on regroupe tous les producteurs agricoles, etc., pour voir dans quelle mesure on peut faire prospérer l'agriculture togolaise. Les rapports nous disent qu'en réalité, aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes. L'un des premiers problèmes qu'on a, c'est l'effectif de ceux qui font le travail d'agriculture.
L'effectif n'est plus suffisant?
L'effectif n'est plus suffisant parce que les gens quittent l'agriculture pour aller
dans
d'autres secteurs, comme le secteur des services. La jeunesse n'est plus encouragée à rester dans l'agriculture. On veut mécaniser l'agriculture. On va chercher des engins, des tracteurs qui ne font pas plus de 3 mois dans les champs. Je vais vous donner une anecdote.
Très rapidement.
Très rapidement. Il y a une structure qui est venue faire une proposition à l'autorité, à notre ministère de l'Agriculture, etc., pour dire, je vais vous fournir 100 tracteurs, vous payez 25% du prix, je fais un suivi après chaque trimestre, chaque 3 mois, pendant 2 ans, vous payez la moitié et après les 25% restants à la fin du contrat. Mais cette structure a été délaissée au profit d'une autre structure qui a livré des tracteurs qui n'ont pas fait 3 mois. Allez dans les champs, vous verrez. Tout le monde est déçu par cette attitude-là. De l'autre côté, on dit, on veut faire
la mécanisation de l'agriculture.
À part la mécanisation, il y a la transformation agricole.
Oui.
Le rapport nous dit aujourd'hui que ça n'a même pas encore démarré. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les structures mises en place pour le faire, peut-être n'ont pas les compétences, peut-être n'ont pas les moyens requis pour y aller. On a créé la PIA pour la transformation agricole. Les gens ont mis en place l'usine, mais en temps, ils n'ont pas la matière première. Est-ce que ça a démarré? Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a créé quoi? Comment ça s'appelle?
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Le PTA Togo. Projet de transformation agricole et alimentaire, agroalimentaire du Togo. C'est aujourd'hui la seule chose qui nous reste. Mais il faudra produire en quantité pour pouvoir transformer. D'accord. Et donc, je crois que nous avons un problème au niveau de l'agriculture qu'il faut forcément régler.
D'accord. Alors Isidore, c'est d'après ces explications données par Eric tout de suite, on comprend justement que nous avons un problème. À quoi est dû même d'ailleurs cette insuffisance-là que nous avons dans l'agriculture?
Moi, ça ne m'étonne pas. On m'a toujours traité d'oiseau de mauvais augure. Quand j'en parlais, nous sommes plus dans le folklore. C'est ça. Il vient de parler de faux pattes. Combien de milliards ont été éjectés dans ces histoires de faux pattes? Et on a mobilisé toutes les sommités de l'État, y compris le chef de l'État, pour motiver les agriculteurs, les producteurs agricoles. Mais les résultats sont là. Ce n'est que plus du folklore. Et le vrai problème, c'est que nous manquons d'une véritable politique agricole. Nos sols.
Est-ce que vous pensez que nous n'avons pas de politique agricole?
Je dis d'une véritable politique agricole.
Il sait qu'il y en a, mais il dit une véritable.
D'accord.
Est-ce que nos sols ont un rendement aujourd'hui pour permettre aux agriculteurs?
Il non, a dit tout, tout, tout. Le rapport me dit oui.
Oui, bon, attends, bon. Si tu permets que je puisse continuer.
Non, vas-y, vas-y, s'il te plaît.
Aujourd'hui, il dit que la main-d'œuvre au niveau des agricultures n'est plus le cas. Parce que ce n'est plus rentable. Quelle est notre politique agricole? On vient, on vous donne de l'engrais, des herbicides. Il n'y a plus de métayage, hein? Des herbicides, on vous donne des engrais et le rendement n'est jamais au beau fixe. Si vous dépensez une tonne d'engrais pour cette saison, la saison à venir, vous allez dépenser 2 tonnes et ainsi de suite. Vous détruisez les nutriments qui sont dans vos sols. C'est un problème de productivité agricole. Si on nous dit aujourd'hui que nos sols sont encore productifs, tant mieux. Mais comment se fait-il que nous n'arrivons pas à atteindre le nombre de tonnages que les Israéliens font, que les Chinois font? C'est pourquoi je parle d'une véritable politique agricole qui nous manque.
D'accord.
On n'a pas besoin de beaucoup de main-d'œuvre, mais on a besoin d'une politique qui renforce ou qui donne une meilleure productivité agricole.
D'accord. Alors, Jean-Baptiste, est-ce que ce n'est pas paradoxal quand nous avons déjà des terres, des sols quand même qui sont cultivables et qu'on peut retrouver même d'ailleurs sur tout le territoire national, mais au même moment nous souffrons en matière d'agriculture?
Bon, je crois que vous avez tout dit dans votre question. La preuve palpable, nous avons beaucoup de terres cultivables, arables, chez nous au Togo. Mais imaginez que ce soit le Japon, hein, un désert, un pays constitué à 85% de... hein, qui nous envoie de...
du riz,
et on prend ça et on fait un show médiatique autour. Je crois qu'il y a à se poser mille et une questions. Les pays désertiques qui nous envoient du riz, ça ne se comprend pas.
Surtout de la tomate, c'est ça.
C'est pourquoi il faut une véritable politique agricole.
Nous n'avons pas de politique agricole. Hein? On n'a pas de politique agricole. Imaginez, vous parlez de main-d'œuvre ou vous parlez de la population active qui doit être dans ce secteur. Nous avons appris depuis le cours primaire. On disait que c'est 80% de la population active qui était dans l'agriculture, qui se consacrait à l'agriculture. Mais aujourd'hui, tout a baissé jusqu'à autour de 40% de la population active. Mais cela, cette grande proportion ne nourrit pas le peuple togolais. Vous parlez, pas plus loin, quand nous allons en France, c'est 2% de la population active de la France qui nourrit tout le territoire français, toute la population française. Alors, ça veut dire que ce n'est pas une question de population qui doit s'adonner à l'agriculture avant que ça ne soit rentable, ça ne soit, comment appelle-t-on, suffisante pour notre population. Donc, c'est une question de mécanisation, d'organisation de l'État. Même l'État doit s'organiser à ce que les moyens soient au rendez-vous des agriculteurs. Sinon, ce ne sont pas, Eric l'a dit, il y a des gens qui proposent des solutions pour mécaniser notre agriculture, mais compte tenu des contingences, les gens vont préférer d'autres sociétés ou bien d'autres structures à la place de celles qui sont peut-être aptes, efficaces pour promouvoir notre agriculture. Donc, c'est les contingences. Donc, d'où la question fondamentale, est-ce que réellement nos gouvernants, nos décideurs veulent vraiment une réelle mécanisation, une réelle politique agricole dans notre pays? Sinon, les exemples sont là, avec les nombreux projets que certains ministres, paix à leurs âmes, ont eu à piloter dans notre pays, plusieurs centaines de milliards. Hein? Avec des forats et de paysans qui ont été créés chaque année. Le chef de l'État s'en va pendant 3 jours. Les agriculteurs vont se regrouper dans telle ville du pays. On fait du tout ça là. Ça a donné quoi aujourd'hui? Alors, avec la vie chère que nous avons aujourd'hui, la question reste posée.
D'accord, la question reste posée. Oui, Eric.
Je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain avec le bébé. Non. c'est pas forcément que les mécanismes mis en place sont défaillants.
Ah bon?
C'est parce que oui, ce n'est pas forcément à cause de ça. Par exemple,
mais c'est quoi?
C'est, par exemple, on dit dans le temps, notre agriculture produisait à peine 500 kilos par hectare. Aujourd'hui, on est à 2 tonnes par hectare avec les mécanismes mis en place. Maintenant, ce qui se passe, c'est quand on dit qu'on veut mécaniser l'agriculture pour permettre aux gens de mieux travailler et d'avoir des rendements profitables à tous, c'est là où se pose le problème. Aujourd'hui, les gens ont des difficultés pour encore faire cette agriculture traditionnelle.
Mais il y a une question de démographie aussi. Hein,
Oui, c'est vrai. Mais écoutez, aujourd'hui, tout le monde veut aller rester dans un bureau.
Il y a quand même de l'espace cultivable.
De l'espace cultivable.
Non. Là, oui, ça nous le savons.
Ils sont là,
maintenant, lorsqu'on réunit les gens pour leur parler de leur métier, en réalité, c'est pour les encourager. Mais maintenant, à la fin, c'est le suivi qu'il faut et les directives données, les recommandations prises au cours de ces rencontres-là, que ces recommandations-là soient prises en compte et que l'on fasse avancer les choses.
Oui, je voulais juste rappeler, dans les années 60, jusqu'à 70 pratiquement, il y avait une bonne politique agricole. Je ne sais pas si peut-être vous êtes assez jeune, mais d'autres vont comprendre. Jeunesse pionnière agricole, qui faisait de très bons rendements. C'est des initiatives à promouvoir. Et j'ai posé cette question à certaines autres autorités. Ils disent que les gens toujours vont en Israël se faire former, mais ils restent dans les bureaux.
Après la formation.
Mais allez-y chercher.
On veut faire la culture dans le bureau. D'accord, merci beaucoup. Alors, chers confrères, nous allons en arrêter là pour ce qui concerne le débat. Et on va revenir, bien sûr, alors sur un certain nombre de sujets. Mais et je sais que nos auditeurs s'impatientent à rentrer aussi en ligne pour participer à ce débat avec nous. Et nous allons leur donner la parole. Mais bien avant, on fait un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. C'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Premier auditeur qui se signale. Allô?
Oui, pasteur.
Oui, bonjour, Basile.
Ah, et salut le plateau.
Oui, le plateau aussi vous salue. J'espère que vous allez bien.
Non, c'est bien.
D'accord. Allez-y.
Bon, moi, mon frère Eric est avec vous. Tout ce qu'il a expliqué, moi, j'ai suivi ça avec beaucoup d'intérêt. Mais les rapports qui nous viennent généralement et régulièrement dans le pays, tout ce qui dit que ceci n'est pas fait, ceci n'est pas fait là, on n'a jamais eu ça. C'est surtout partout où le Togo est premier dans tout qu'on a eu jusqu'à ce jour. Est-ce que tout ce qui vient de nous dire, moi je ne suis pas capable de lui répéter tout ce qui nous a dit que c'est vrai, ceci n'est pas fait, ceci n'est pas fait, moi je ne suis pas à mesure de lui répéter. Est-ce que quand il y a tout ça là, est-ce qu'on ne trouve pas ça sur la place publique? Comment est-ce que le citoyen doit juger les actions de nos gouvernants? Est-ce que vous voyez? Bon, vous dites aussi que pour la vie chère, on nous dira que si le Niger vend le ciment à 51 000, c'est parce qu'il a le pétrole. Mais nous, même qui avons le ciment, nous on vend à 80 000. Le Niger, à cause de son pétrole, lui vend le ciment à 51 000. Voilà comme ça des raisonnements qu'on vient, on tient. Je ne sais pas comment on va faire dans ce pays. Et pour le moment, je m'arrête là.
D'accord. Merci, Basile, pour votre intervention. 90-86-35-35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Ah, je vous salue. Hein.
Oui, nous vous saluons aussi. C'est Basile Senghor?
La famille même.
Voilà, allez-y.
Merci beaucoup. Je voudrais vous poser une question, vous, qui êtes au plateau, là, la journaliste Boulette. Bon, s'il vous plaît, ne vous gênez pas, hein. Je voudrais savoir, depuis que vous avez commencé cette émission, Club de la presse, là, et nous, les intervenants, ça donne quoi? La première question. Bon, est-ce que un papa dans une maison, je voulais parler de mon grand-père, quand il est fondé, lui, il est là, il vous attend, mais vous ne faites pas votre devoir. Prenons le cas de Burkina Faso, avec le petit Traoré, avec les journalistes burkinabés. Tous les temps, ils sont avec le président. Pour quand même le questionner, de savoir que tu ne vas pas dans ce pays. Mais au Togo, je voudrais savoir si le protocole de Femme Lassine qui vous empêche de s'approcher à notre cher président pour lui poser certaines questions, de c'est vous-même qui n'arrivez pas à assumer votre responsabilité. Aujourd'hui, nous avons le président de CONAF avec les patrons de la presse au Togo. Mais ça ne va pas. Vous ne voyez pas ça? Que le Seigneur vous bénisse. Merci.
Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse aussi, Évangéliste Senghor. Allô?
Oui, la mafia aurait du mal. Pour dire aussi que j'ai entendu quelque chose, est-ce que ça change quoi? Effectivement, ça change quoi? On dit, ceux-là, qui sont là-bas, ils veulent faire plaire à leur population. Pourquoi nous, on ne va pas vouloir nous faire plaire? Que ceux-là qui ont pris le pouvoir, ils ont pris ça par les armes, que les gens ne sont pas d'accord, ils veulent faire pour faire plaire à leur population. Pourquoi nous, on ne peut pas nous faire plaire? Et depuis 60 ans, nous, on va être là, en train de visiter.
Allô, Basile?
Oui.
Nous avons parlé de beaucoup de sujets. Sincèrement, je ne sais pas
mais
de
c'est
quel
la
sujet
dont je vous parle.
Oui, je ne sais pas de quel sujet vous parlez, puisque nous avons
mais parlé la vie chère.
De la vie chère. Je pense que vous en avez déjà parlé quand vous avez.
Oui, mais quelqu'un vient de dire, c'est ça que je commence. Hein? On dit que ceux-là, c'est parce qu'ils ne sont pas légalement venus au pouvoir. C'est pourquoi ils veulent faire plaire à leurs citoyens.
Pourquoi
nous, on ne veut pas vous faire plaire aussi, on va manger. Qu'il est une fois partout.
D'accord, merci beaucoup, Basile. 90-86-35-35-91-36-63-75. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, madame Essi. J'espère que vous allez bien.
Monsieur là-bas, oui, à tous.
Oui.
À monsieur Oli, on ne l'entend plus, là. Et à tous les opposants, à Fabre et tout le reste, qui abattent un travail noble dans ce pays. Voilà, vous avez parlé des petits qui ont baissé les prix des produits. Oui, eux, ils ont intérêt. Ils ont intérêt à baisser les prix parce que c'est le même.
Madame
ici.
Madame ici. Oui. Nous n'avons pas parlé de cela. C'est
de ces gens-là.
Oui.
Bon, maintenant, est-ce que vous avez demandé au président, je vous ai chargé d'un truc, pourquoi il nous refuse au président, là? Pourquoi il nous refuse l'alternance et la démocratie? Pour qu'on soit bien dans le pays. Est-ce que vous lui avez demandé? Et puis, quand il passe là, il passe en coup de vent, comme si on est en guerre de Mossoul en Syrie. Il ne se confond pas dans la masse. Jamais, il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais accordé une interview à vous déjà. Il nous méprise. Allez lui demander. J'allais lui demander ça. Vous avez parlé de Trump?
On n'a pas parlé de Trump. J'espère. Trump. Est-ce que vous nous avez suivis?
Non, je n'ai pas suivi.
Ah, d'accord. Là, ça se comprend. Ça se comprend.
C'est la même chose. Ce n'est pas écrit dans la Constitution qu'on doit débattre toute la vie. Mm. On a dit 5 ans et tu alternes, tout le monde gouverne, même les agriculteurs. Et puis le pays évolue. On ne sera pas dans cette totalité. Bien sûr, à ça, c'est à Eva. Merci.
D'accord, merci Madame Essi pour votre intervention 90-86-35-35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Nyamavo.
Nyamavo, chef.
Allez-y.
Je salue le plateau.
Le plateau aussi, vous salue.
Je vous ai pris au vol, mais surtout au niveau de la vie chère. C'est ça qui va faire partie de ce régime. Ils mettent les pieds dans tous les plats, mais ils n'arrivent pas. Vous allez voir, à la veille de leur changement de constitution, le président circulait par ici pour de la première terre, pour l'engrais, etc. Ben, souvenez-vous, je vous avais dit hier seulement que, oui, avant-hier, que la minorité s'est accaparée des terrains aussi. Ceux qui disent que les jeunes sont paresseux. Mais allez dans les villages, voir. Les mêmes jeunes contre des paresseux, ils sont au Nigeria, dans les champs des gens qui reviennent avec des motos, les filles ailleurs pour venir avec des machines. Est-ce qu'on n'a pas ces richissimes-là? Ils ont appris le terrain. Mais ils n'ont qu'à créer de main-d'œuvre sur ce terrain-là aussi pour faire travailler les jeunes. Ils ont planté les eucalyptus, les terres qu'ils vont, ils coupent, ils vendent. Bon, ok, on s'en fout. Hein? On a de l'argent, on s'est fait de l'argent. C'est ça qui est la vie chère surtout. Hein? Faut pas... Moi, mon père a des terrains et qu'on dit que je suis paresseux, il ne veut pas aller au champ arracher une seule herbe. C'est faux. Les jeunes n'ont pas de terrain. Au moins, l'État n'a qu'à penser à la réforme agraire aussi, réduire les terres. Depuis qu'on a fait la réforme agraire, quand on a encore fait la réforme agraire, les gens ont acheté les terrains sur leurs parents, on ne trouve pas à travailler, on dit que les jeunes sont paresseux. Non, vous l'avez tout dit, hein? Les caterpillars gâtés, tout ça là, c'était pour faire plaire les Togolais. Mais ils ne sont pas élus, mais ils sont venus de force. Et ils font ce qu'ils ne passent pas à la tête. Ils ne pensent pas à leur population, mais Donald Trump pense à ta population. Voilà quoi pour fermer là-bas.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Nyamava. Nous allons recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, Papa Sodilé.
Bonjour. Oui, moi je voudrais intervenir surtout dans le côté de main d'œuvre de la terre là.
L'agriculture.
Ouais. C'est-à-dire dans notre temps, on travaillait ou bien on faisait 12 bras. Un bras comme ça fait 2 mètres. Fois 12. On faisait ça peut-être à 300, 600. Aujourd'hui, il faut voir. Et on voit les gens réduisent jusqu'à 9 bras. Mais combien ils veulent faire? 1200, 1000 quelques. Et les gens ne veulent même plus travailler la terre. Tous sont venus à Lomé. Donc on a ce bien du corps, les choses vont coûter cher. On manque de manœuvre. Manœuvre, même si vous prenez la manœuvre, vous taclez. Si vous semez, il faut au moins tacler 2 à 3 fois. Et si vous taclez comme ça, après la récolte, vous n'aurez rien. C'est tout ça la cause de la charité de la vie des produits alimentaires. Merci, bonne journée.
D'accord, merci Papa Sodiné pour votre intervention. Vous êtes le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission. Nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table. Mais bien avant de faire le dernier tour de table, je rappelle que dans les kiosques ce matin, vous avez le journal L'Union pour la Patrie dont le directeur de publication est avec nous ce matin. Et nous avons débattu même d'ailleurs des titres alors de L'Union pour la Patrie, notamment établissement privé d'enseignement supérieur, obtention d'agrément, accréditation des parcours et homologation des certificats. Nous en avons parlé dans cette émission. Autre journal dans les kiosques ce matin, c'est le médium qui écrit à sa une culture FIRA 2024, allons tous à Anejo. Et également le médium écrit un centre de ressourcement à Kara inauguré samedi dernier par Fort Nyasimbe. Autre journal, c'est Écho du Monde dont le directeur de publication est Jean-Baptiste Atisso en studio avec nous. Le journal titre à sa une, Gabon, le général Oligui Nguema soumet à référendum un projet de constitution qui interdit une succession familiale. Ce sont ces trois journaux que vous pouvez retrouver dans les kiosques, en tout cas ces trois journaux qui sont avec nous alors ce matin. Alors, cher confrère Eric,
oui.
Vous avez écouté les uns et les autres se prononcer aussi sur l'actualité. Et c'est vrai, beaucoup de personnes quand même ont lié tout à la politique, et ça se comprend aussi. Et votre réaction?
Non, je pense qu'il faut demander à nos compatriotes de dépassionner le débat. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent lorsque nous nous mettons dans cette configuration-là. Il ne faut pas critiquer pour critiquer, mais il faut apporter quelque chose. Et il y a, comment il s'appelle, Évangéliste Senghor, qui demandent, depuis que nous avons commencé ce club de la presse-là, qu'est-ce que ça donne? Souhaiterait-il qu'on arrête? Moi, je peux le rassurer aujourd'hui que ce que nous faisons ici a toujours des échos et à chaque fois, nous, peut-être lui, il ne peut pas avoir les réponses à nos questionnements, mais nous, nous avons les réponses à nos questionnements. Parfois même, il y a des décisions qui sont prises parce que nous avons débattu de certains sujets au club de la presse.
Tout à fait.
C'est très important. On ne peut pas, aujourd'hui, si nous disons, nous arrêtons le club de la presse et ou que nous arrêtons de faire le journalisme, je pense que il y aura un gros souci dans le pays. Il faut jamais souhaiter ça. Mais toujours est-il que nous avons des échos favorables par rapport à ce que nous discutons. Je crois que ceux qui critiquent le pouvoir ne le font pas parce qu'ils n'aiment pas X ou Y, mais plutôt ils apportent aussi la critique pour que nous puissions avancer. Sans la critique, comment vous allez penser que vous faites tout bien, alors que ce n'est pas évident. Et je voudrais peut-être dire mon dernier mot par rapport... Oui. Tu vas me demander mon carton
tout à fait,
et tout ça.
Votre note.
Bon, je crois que nous sommes déjà en plein dedans, dans le FIRA, le Festival d'Histoire d'Anéra, qui va commencer déjà demain. Et comme la... comme l'invite du...
Demain vient le 16.
Du journal Le Médium, qui appelle toutes les populations à aller à Anéra pour participer à ce festival très important.
D'accord.
Je crois que je le fais aussi. Mmh. J'appelle les populations à y aller.
D'accord. Isidore ?
Non, tout se résume à une interpellation des journalistes. Si des démarches n'ont pas été faites pour rencontrer le président et parler de la vie de la nation.
C'est le Valéry Senghor.
Oui. Il n'est pas seul. Il y a d'autres aussi qui sont revenus. Ce n'est pas faux de n'avoir pas essayé. Mais sur tous les cieux, l'initiative vient souvent de l'autorité. C'est l'autorité qui prend l'initiative et vous allez débattre à bâton rompu. Je crois qu'il avait eu à faire ça une seule fois, depuis ça fait plus de 15 ans. Je ne pense pas qu'il ait encore fait.
Okay.
Et fort d'assimilé.
Il a fait une fois.
Pour recevoir la presse.
Oui, il a
reçu. C'est pas une seule fois.
Ah bon, ça je ne sais pas.
Discuter publiquement.
Discuter publiquement. Bon, maintenant, ce n'est pas seulement. Non, j'ai un coup de gueule. En principe, je devais paraître aujourd'hui, mais imaginez que hier à 11h. On a coupé les traités dans notre secteur. C'est à 20h que le traité a été rétabli. Dans quel pays sommes-nous?
D'accord.
Au Togo.
Jean-Baptiste, rapidement.
Oui, je crois que les auditeurs, ils ont eu le temps de nous écouter et avec leurs commentaires, on sent que notre pays va mal sur le plan...
La gouvernance,
parce que vous savez, quand les populations crient, et bon, il faudrait que les décideurs soient à l'écoute, parce que on ne gouverne pas en l'air, hein, on gouverne les êtres humains. Il faut tenir compte de leurs humeurs. Sinon, quand vous êtes un dirigeant, que vous fermez vos oreilles, vos yeux sur le cri de vos administrés, un beau jour, en avant les dégâts.
D'accord, Jean-Baptiste, votre note de fin d'émission?
Bon, je n'ai pas de notes.
Vous n'avez pas de notes. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Atisso, d'être passé dans cette émission. Ripa Kudjo Dosson, merci d'être passé dans cette émission.
Moi.
Isidore Atialo Akolo, merci d'être passé aussi dans cette émission, puisque nous sommes à la fin. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés aussi pour contribuer à ce débat à travers vos réflexions. Merci à vous tous. Merci à Thomas Itek aussi d'ATV qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve demain mercredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.